original avec Leïla Kadour-Boutadis, Morgane Cadignan. Comment ça va, Morgane?
Tu es en beauté.
Oh là là.
Merci.
Mais
Nadine,
tellement bien réveillée, tellement maquillée. Florence Madeleine, le danseur. Ah, le danseur que la planète entière nous envie.
Jérémy Crépilleur.
Et les abdos de Jérémy Crédville.
Tanguy Pastureau.
C'est lui qui ne danse pas et ne bouge pas, c'est moi.
Jaloux. Et Daniel Mora. Et nos invités sont Martine et Philippe Delair.
Oui.
Il danse aussi.
Ouais, très grand danseur.
Ah bah, on va leur demander.
Je crois qu'ils break sur la tête.
Ils ont...
comment on appelle ça déjà?
Breakdance. Smurf.
Smurf,
je sais plus non.
Smurf, c'est vieillot, mais oui.
On va demander au spécialiste, Jérémy.
Au Trocadéro, 84, c'est ce qu'il
dit. Je vous préviens, j'ai potassé Venise.
Martine, alors justement, Martine Delerme et Philippe Delerme parlent de Venise dans Fragments Vénitiens. Donc, si vous êtes prêts pour le blind test, ce qui semble être le cas de Florence.
Chez la Eringo.
Quoi?
Chez la Eringo.
Ah non, pas du tout.
Daniel? Tu viens clair?
Oui.
Bravo,
ouais.
Ouais. Daniel.
Elle voulait qu'on l'appelle Venise.
Quelle drôle d'idée.
Ça va, Morgan?
Non.
Ah,
je craquage nerveux.
Allonge-toi.
Je rappelle la règle du jeu, vous me donnez votre prénom et vous attendez que je vous donne la parole avant de donner la réponse.
Et là,
Daniel. Non, Aznavour, que c'est triste Venise.
Joli.
C'est triste Venise.
J'en connais qu'un avec Venise, c'est Reggiani.
Et aussi Chela
et Ligue. J'en connais
aucun. Ah oui,
on peut l'écouter, oui, ou pas?
Moi j'attends Lily Cube.
Ah oui.
Voyage en Venise.
Et que le cœur se serre. Ça fait deux points, Daniel, hein?
Ouais. En voyant les
gondoles. Qui chante?
Bah Daniel.
Daniel.
Chela et Ligue.
Allez, Florence. Tu l'avais vu tout à l'heure.
C'est dur, là.
Mais Daniel est très rapide malgré son âge.
Ouais, c'est ce qu'il m'a dit.
T'as vu la chienne que c'est quand même?
J'aime bien le ton de la voix sur lequel il dit en plus.
Ouais.
Pervers.
Salaud,
c'est bip bip. Quoi?
Ah. Qu'est-ce donc?
Daniel?
Oui.
Traviata? Verdi?
C'est ça. A baptisé Carnaval de Venise.
Ce serait génial, c'est que tu te fasses doubler sur le Super Banco.
C'est très possible.
C'est déjà arrivé.
Tellement de fois.
On va vous laisser avec Daniel, mec.
Qui chante?
Daniel.
Gianni. Daniel. Gianni.
Oh non.
Venise n'est pas en Italie.
C'est
la Italie. Venise. Daniel, 12 points.
À mon avis, là, il va moins frimer, Daniel. Qui chante?
Ah, tu l'as pas, celle-là, hein?
Ça veut dire que c'est récent.
On entend pas.
Bon, allez. Je vais prendre un café, je reviens. Et Dieu vous garde, Dieu.
C'est pas français.
Ah.
Morgane?
Oui.
Lana Del Rey.
Jolie.
Oh oui.
Elle a chanté Venise.
Venice Beach.
Ah, Venice.
Ah, oui.
Mais Beach, B-I-T-C-H.
Oui. Ouais.
Ah, je connais l'autre.
Britney.
Un point pour Morgane qui sauve l'honneur des autres. 5 pour Daniel Morin. Il y a forcément Venise dans le titre. Qui est l'interprète?
Daniel. Ah bah non, j'allais dire Tozzi, mais non.
Non.
Morgane, Laura Pausini?
Non.
Non.
Leïla?
Ouais.
Ah si,
Jérémy.
Non.
Si,
Jérémy.
Jolie.
Julie Zenati?
Non.
Oui, Tanguy. Quelque chose comme ça. Hein.
Ouais. Olivia Ruiz?
Non.
Non, non, c'est.
C'est Gara?
Pardon?
Jérémy.
Leïla?
Oui.
Non, il a pas dit son prénom.
J'ai dit c'est Gara.
Non, je l'avais.
Écoute. De Venise à la Seine. Elle est pas belle cette chanson?
Si.
Trop belle, on va arrêter.
Et c'est Daniel Morin qui remporte le blind test.
C'était le Super Banco.
Et ouais, c'est Super Banco.
Il n'y a même pas eu Hervé Villard.
Il a chanté Capri.
Sur Hervé Villard.
Il a chanté Capri.
Non, il a fait une chanson avec Venise.
Ah bon?
Oui.
Merci d'accueillir Martine et Philippe.
La bande originale.
Hello, soyez bienvenus.
Avec Nagui.
Vous êtes beaux tous les deux.
Ah oui.
Fragment Vénice.
Ça jure par rapport au reste.
Non, mais vraiment, c'est vrai, quand on voit nous et quand on voit eux.
Ouais. Ah. Je vais y aller d'ailleurs.
Couple qui a réalisé à quatre mains ce livre fragment vénitien avec de sublimes photos.
Sans personnages.
Et la poésie, c'est ça. Et la poésie, alors que dans la poésie, les personnages sont présents, ceux qui veulent déclament un permesso avec l'accent tonique sur la deuxième syllabe où on est obligé de s'écarter. Ouais, attention, on est quand il s'agit de livrer avec ses muscles les ouais, c'est des beaux gosses musclés hein, si j'ai pas de mémoire ceux qui
oui c'est, dans l'ensemble oui c'est, enfin c'est des gens des gars plutôt jeunes voilà donc
on va demander à Martine, sont des beaux gosses
plutôt très relatif.
C'est vrai,
ça dépend,
la beauté est relative, je vous
la lumière.
Martine et Philippe, comment avez-vous travaillé à quatre mains ce livre, d'où viennent les photos et est-ce un voyage unique dans une période, j'ai l'impression au mois de juin, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Mais à Venise, c'est un rendez-vous annuel.
Oui, enfin, ça fait une vingtaine d'années. Nous sommes très peu voyageurs en fait, mais on a quelques points de chute comme ça, soit dans le nord, soit à Venise. Et ça fait une vingtaine d'années que nous allons effectivement une fois ou deux fois par an à Venise. Et on a un petit rythme de vie quand on est à Venise. On visite pas trop Venise, mais on se balade. Et puis le matin, on est séparés complètement. C'est moi, je fais des photos en fait. Je marche dans Venise, une Venise un peu secrète. Je fais des photos ou j'écris ou je dessine. Et Philippe écrit, voilà. Et on se retrouve pour un spritz, on doit le dire.
Ouais, c'est obligatoire à Venise.
À midi, voilà.
À midi, rouge. Ah ouais.
Enfin, à midi, ou enfin, non.
9h, ça dépend.
Parfois, ouais.
Si on arrive à se retrouver, surtout. Parce que, non, mais vous le dites, justement, votre Venise n'est pas la Venise des touristes, et plutôt celle où on se perd, celle où, qui n'est même pas relevée dans les cartes de la ville.
C'est la Venise, je dirais, anti-Paul Morand. C'est-à-dire, c'est pas du tout la Venise des palais, quoi. C'est pas la Venise des princesses ni des palais, ni même trop du Grand Canal, en fait.
Vous êtes sûr que c'est Venise où vous allez?
Ouais, je pense que les gens qui aiment Venise trouvent un peu que c'est un peu la vraie. C'est celle qui évite les panneaux Perialto, San Marco. Finalement, c'est assez facile. Ouais.
Qu'est-ce que vous dites, hein, vous remerciez même ces panneaux.
Oui.
Merci aux panneaux, parce que comme ça, on peut éviter, on va exactement de
l'opposé.
De l'autre côté.
Sinon, il y a Bruges hein, qui ressemble un peu.
Ouais. Ouais. Bah, c'est notre deuxième ville d'élection, en fait. Ouais.
Ce que vous aimez, c'est ce.
Les zones inondables.
Ce côté. Non mais en tout cas l'eau est très présente, elle est évidemment présente dans les canaux, elle est même présente sous vos pieds, dans le sentiment presque de marcher sur une île et de s'enfoncer un tout petit peu quand on marche, la légèreté, la fluidité de vos promenades vont bien avec le rythme des canaux vénitiens.
Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs c'est assez curieux à Venise parce qu'il y a des endroits qui sont des vraies îles. Et il y a des endroits qui sont entièrement sur pilotis. Et quand il y a des travaux, vous avez l'eau qui affleure, qui est en dessous. C'est très curieux comme effet. Et sur la place Saint-Marc, d'ailleurs, il y a des petites grilles partout, très discrètes, mais qui permettent à l'eau de suinter un peu pour pas qu'il y ait d'aqua alta. Ça remonte doucement. Enfin, oui, c'est.
Et les couleurs, parce que ce qui est bluffant, ce sont les couleurs. Elles ont été retravailler ces photos.
Ben non, pas du tout. Non,
c'est
non.
Sans effet, comme on dit, c'est ça.
Ben oui.
Elles sont dingues, ces couleurs.
En fait, je suis une. J'adore la photo. Hein, depuis que j'ai gagné mon premier petit Instamatic Kodak à 12 ans sur une plage, j'ai été.
Gagné, pourquoi c'était un jeu?
Oui, c'était Kodak qui vous prêtait un Instamatic. C'était pour lancer l'Instamatic Kodak.
D'accord.
Et donc, ils prêtaient des Instamatic à tous les enfants. Et puis il y avait des thèmes et puis on gagnait si le soir il projetait les photos puis
et le gagnant gardait l'appareil.
Et oui, et donc j'ai gagné un petit Instamatic que j'ai donné à Vincent comme une pièce
de musée.
De musée. Et donc j'ai toujours fait de la photo mais avec un appareil généralement très simple quoi. Donc là j'ai un petit Lumix que je mets dans la poche et qui me suit absolument partout.
On est passé au numérique donc plus d'argentique.
Voilà. Bah oui.
Mais tellement plus pratique parce qu'on peut en faire plus déjà. On n'est pas coincé par le nombre de poses sur la pellicule.
Voilà, c'est léger, c'est bon ça.
Je vais pas jouer
On fait une bonne pub là pour.
Non, c'est pas ça. C'est que je me souviens des, ne serait-ce même quand on se baladait avec des appareils photo.
De table.
Et où on était. Oui.
Non, mais
tu
même,
savais
il fallait changer. Le...
Ouais, t'arrives à 24 ou à 36, ça dépend du nombre que t'avais, et c'était fini. Là maintenant, on reprend 25 fois la même pose en disant bon, il y en a bien une qui va être bonne là-dessus, sans se soucier du tri que l'on fait. Mais le réflexe, Martine, pardon, dans le numérique aussi, et d'augmenter tout petit peu, d'éclairer, de la saturation, de régler, ce qui n'est pas scandaleux, parce que c'est même un travail que faisaient avec l'argentique ceux qui développaient les photos aussi, en laissant plus ou moins les bains, les différents bains se faire, et de donner un grain différent dans le développement. Donc, c'est pas tricher que de toucher à la photo elle-même, si ?
Ben non, c'est pas tricher, mais je...
Vous ne le faites pas ?
Non.
La photo, elle est prise.
Mais en fait, c'est
oui,
c'est...
oui. J'ai comme ça. Je me dis que c'est un regard avant tout. Et puis, j'en rate. Hein. Bon, évidemment, comme on a la possibilité de rater tout ce qu'on veut.
Et on donnera les pages là où c'est raté. On donnera toutes les pages.
On en profite. Mais non, c'est le plaisir de fixer. En plus, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire. Je me suis battue toute ma vie contre cette absence de mémoire, et la photo me permet vraiment une mémoire personnelle, enfin un bonheur personnel.
Et quoi. Puis un prisme très particulier, parce que vous y allez du gros plan au choix de photos qui pourraient ressembler à un dépotoir de cagettes, mais avec votre regard, il est beaucoup plus tendre, ce dépotoir de cagettes. Même
c'est plus un dépotoir.
C'est ça. Même la chaîne rouillée, on peut se dire, mais là, on est vraiment au bout du rouleau, et il y a ça donne des couleurs absolument ocre. Génial.
Et la lumière, la lumière à Venise.
C'est la magie de la lumière de Venise. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est un peu décrépit, ce qui s'écroule, ce qui s'effrite, c'est beaucoup plus beau à photographier.
Alors, puisque vous en parlez pas de Philippe.
À propos de décrépit.
C'est ça.
Venez en part.
Merci d'avoir compris la vanne, Philippe.
Moi, je me désolidarise.
Votre rôle, entre guillemets, votre travail d'auteur et toute cette poésie qui vient s'installer se fait en... n'ayant vu les photos, ou au contraire, vous aussi...
C'est simplement ce vagabondage dont je parlais à Martine, mais c'est un petit peu un vagabondage parallèle, et nous, on avait plaisir à ça, en fait, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on mène une vie ensemble, on a fêté nos 50 ans de vie ensemble...
Félicitations.
Et donc...
Ça dégoûte, Morgane.
C'est beau.
Et en même temps...
Non, mais ils s'engueulent tous les soirs, en même temps.
On s'engueule pas tous les soirs, parce qu'on n'est pas l'un sur l'autre en permanence.
Vous passez vos matins séparés. Il va bien y avoir de l'embrouille quelque part.
C'est le secret qui dure.
Ouais, c'est ça, hein, apparemment.
Et à Venise notamment, c'est vrai qu'on a envie d'avoir un peu notre regard à chacun. Et d'ailleurs, ce livre, ce ne sont pas des textes qui illustrent des photos. Donc,
c'est vrai.
Pour répondre à votre question, c'est mes sensations de Venise. Et puis, c'est le regard de Martine sur Venise.
Oui, mais pardon, vous pourriez avoir... pardon, vous interromps. Vous pourriez avoir ces sensations en voyant les photos sans les commenter. Or,
c'est vrai que les photos... Bon, je trouve que les photos de Martine ont quelque chose. Quoi. C'est des photos qu'on voit pas d'habitude sur Venise, et c'est vrai que c'est ce qui nous a frappé dans Venise. Au départ, on n'était pas du tout pro Venise, quoi. C'est vrai que pour moi, c'était la ville des clichés, vraiment.
Bonne vanne.
C'était oui, des clichés.
Bonne vanne, livre de photos, ville des clichés.
Tout est métaphorique chez moi. Donc.
C'est un métier.
Ouais. Et en fait, la lune de miel et tout ça, ça nous gonflait un petit peu.
Oui, mais la première visite pour Venise, c'était bien quand même le clin d'œil amoureux.
Un clin d'œil amoureux, mais relativement tardif, puisque on a commencé à 50 ans, et depuis on a été pris complètement, on s'y attendait pas du tout à être amoureux d'une ville comme ça qui avait tellement de repères, alors notamment au niveau de l'écriture. C'est dingue sur le nombre de gens qui ont écrit sur Venise, mais souvent c'est vrai que c'est pas forcément la Venise que l'on aime, c'est la Venise des quartiers, du Dorso Duro, du Castello, du Canareggio, et où on peut se perdre. C'est vrai que les plans de Venise ne restituent même pas toutes les venelles, parce qu'il y en a trop. C'est par définition la ville où on se perd. Et c'est vrai que, pour parler de la lumière, puisque vous parliez de ça, on aime la Venise au soleil, en fait. Mmh. Et Venise sous la pluie, c'est... Bon, souvent les gens vous disent, ah mais Venise... Bon, c'est souvent un peu un snobisme, d'ailleurs, les gens vous disent, ah Venise, c'est bien l'hiver, ou c'est bien quand voilà, quand il fait pas beau.
Hors saison.
Hors saison, oui, comme dirait Cabrel. Et c'est vrai que, en fait, ben, nous, on aime beaucoup la Venise au soleil. Je trouve que Venise est une ville qui devient presque lugubre, par exemple, quand il pleut, parce que ces palais décrépits comme ça, ils ont une espèce de force triste aussi, qui est prégnante, mais qui est résolument, désagréable quand même. Et puis, surtout, la lumière chaude. On a l'impression que toutes ces choses qui sont en train de se détruire, de se défaire, de se décrépir, sont faites aussi pour que cette décrépitude soit belle, quoi. Mmh.
C'est au Seuil, ça sort aujourd'hui, ce livre Fragments vénitiens, signé Martine et Philippe Delerme. On va continuer de parler de ce bel ouvrage ensemble. On est ravis que vous soyez là. Ce n'est pas le cas de Morgane Cadignan, qui ne vous aime pas, mais alors pas du tout.
Bah si.
Non, tu les aimes pas.
Avant,
tu nous as dit, je les aime pas.
Ok, bah.
C'est le contrat.
Ok, Philippe et Martine Delerme, je vous aime pas. Mais j'ai quand même envie de venir me reposer chez vous pendant les vacances. Franchement, pardon, mais vous m'inspirez l'apaisement tous les deux. Et moi, dans ma vie, l'apaisement, c'est assez bas dans la liste des priorités, des réflexes. Parfois, je suis dans la rue, 7h15 du match, je suis en retard sur ma première clope. Mon scooter démarre pas grave, je souffle dans le pot d'échappement, ça tombe bien, j'avais zappé de mettre du rouge à lèvres. Merde, faut absolument pas que j'oublie de déjeuner. Putain, j'ai zappé un truc, je suis sûre que j'ai zappé un truc, mais quoi? Ah oui, respirer. Ouh, c'était moins une. Allez, une petite taffe sur le pot d'échappement, on y va. Heureusement qu'on est que lundi, faut absolument que je trouve un jour off pour pouvoir faire mon burn-out, sinon je vais l'oublier. Donc, vous voir là, ce matin. Eh ben, je respire mieux. Alors, on sait pas, hein, peut-être que dans l'intimité, vous écoutez du hard rock polonais en tuant des petits poussins. Mais, quand même,
c'est une idée.
Quelque chose me dit, je pense pas. J'ai envie de venir chez vous un week-end d'automne, de regarder Martine dessiner et de regarder Philippe regarder Martine dessiner pour écrire un texte qui dit que c'est beau Martine qui dessine dans la lumière d'un soleil timide d'avant l'hiver. Puis derrière, Martine illustre le texte de Philippe qui doit écrire un tome 2 parce qu'il a écrit sur Martine. Mais il n'avait pas vu leur fils Vincent dans le coin de la pièce et proposer une jolie chanson sur toute cette scène. Titre de la chanson, par contre, c'est qui la meuf chelou qui nous regarde du jardin. Parfois, je demandais... Moi, j'ai déjà demandé à mes parents, mais attendez, pourquoi on n'écrit pas les uns sur les autres, nous, des jolis textes? Et ils me répondaient, bah attends, t'exagères un peu, on le fait, toutes nos notes sont consignées chez le juge. T'auras qu'à écrire un spectacle, haha, les arroseurs arrosés. Ah bah ouais, c'était le risque, hein, les gars, on divorce, mais c'est pas sans conséquence, mes petits potes. Après, ça fait des gosses qui deviennent humoristes, c'est sûr qu'en entendant mes chroniques, tu te dis que ça valait peut-être le coup de retenter de relancer la flamme et que la pension alimentaire, ce n'était pas cher payé. Vous avez pas honte, Nagui, à la bande originale, de me mettre face à un joli couple d'artistes qui tient et qui dure. En plus, vous venez nous parler d'un livre sur Venise. Venise, Martine, sérieusement, quoi. Il n'y avait pas une ville un peu moins bohème, mais faites un effort, écrivez-nous un truc sur Shell. Moi, perso, personne ne m'a jamais emmené à Venise, et je veux même pas, parce que tu vas voir que la seule gondole qui va couler, elle va être pour moi. Tu vas voir que le seul pigeon de la place Saint-Marc qui va chier sur un passant au bout de 5 minutes, ça sera pour moi. Va écrire un joli texte derrière. Morgane Cadignan présente Fragments de caca. Un texte intimiste sur sa vie de merde.
El Guano.
Vous voyez, Philippe, la différence, c'est que moi, j'aurais écrit la première gorgée de bière chaude. Parce que moi, j'avais pas une Martine tous les jours pour me faire passer du trottoir à l'ombre au trottoir au soleil.
Bravo.
Merci.
Et on retrouve Morgane sur scène du jeudi au samedi à 20h au Métropole Théâtre et en tournée dans toute la France.
Il y a que quelques petits indices qui nous font réaliser finalement qu'on est à Venise, tellement vous aimez aussi les détails plutôt que les plans larges, évidemment pas touristiques, mais vous allez au plus proche de l'objet avec justement un objectif, c'est-à-dire vous mettez de loin et vous zoomez au maximum ou alors vous êtes collé à justement ces briques, ces couleurs chaudes, ces façades, ces poubelles, même les poubelles, vous les prenez en photo.
Ça peut être les deux, exactement les deux. Je peux prendre des photos de très près parce que je suis très myope, n'importe comment, j'ai un regard de myope sur la vie, donc je peux être très près. Et puis je peux aussi repérer un truc de loin et zoomer. Voilà, c'est
qu'est-ce qui vous interpelle? C'est ce que vous y voyez ou c'est la couleur? Tout n'est qu'émotion dans la photo?
Ah oui, je crois. Oui, je crois que c'est un vraiment...
Ou interprétation, c'est de l'émotion, c'est de l'interprétation.
Oui, c'est quelque chose qui vous happe. Je pense, avant-hier, là, il y avait une très belle lumière, on était sur le canal Saint-Martin, et d'un seul coup, j'ai vu que de l'autre côté du canal,
à Paris,
sur
donc.
Un mur, voilà, il y avait un... C'était pas un tag, mais c'était une affiche collée, comme ça, de femmes nues, et je voyais des hommes masqués passer devant Et ça m'a fait vraiment envie, donc j'ai zoomé. Alors là, elle n'est pas très réussie, j'étais vraiment loin par rapport à mon appareil que j'ai pas... Mais c'était amusant de prendre ça en photo. Quoi,
donc c'est toujours l'interprétation de ce que vous voyez. Est-ce que, justement, il n'y a pas une envie à un moment de faire un tout petit peu de mise en scène?
Ah oui, ah non, ça alors, je n'ai aucune envie de faire de la mise en scène. Voilà. Par exemple, dans la photo, j'aime beaucoup de photographes et je n'aime pas trop... j'ose le dire, les photos de Doineau, parce qu'elles sont très mises en scène. Ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Enfin, pour moi, la photo, c'est quelqu'un qui saisit comme ça, d'un seul coup, quelque chose que nous, on n'a pas vu, on n'a pas saisi. Et...
Donc, c'est un instant volé.
Voilà,
c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une grâce chez les photographes. Ils arrivent à prendre quelque chose que nous, on aurait une seconde de retard.
Une capture au bon moment.
Et savoir à quel moment appuyer.
Ouais. J'avais fait, il y a quelques années, un livre de photos sur les femmes vues de dos. J'avais, parce que pendant des années, je continue d'ailleurs, j'ai continué ma collection.
Vous êtes mis dans la peau de Daniel Morin.
Je photographie les femmes de dos.
Bravo.
Et donc,
merci, bravo. Cette fois, je pars vraiment.
Mais c'était le mystère, justement, quand on photographie quelqu'un qui passe, on voit même pas son visage, on voit que son dos, ça raconte une histoire.
Mais ça raconte l'histoire qu'on a envie d'inventer aussi, pardon.
Oui, oui.
On peut observer des portes peintes, du crépi qui est en train de tomber, des couleurs de maison en train de s'effacer. La poésie que vous mettez dans les photos comme dans les textes, ce que vous y voyez, n'est pas forcément ce que tout le monde voit. Et d'ailleurs, les trois quarts des gens passent à côté sans s'arrêter ou sans se rendre compte de ça.
Mais c'est un peu la gageure, en fait, puisque Venise, en fait, c'est un très bon territoire, je dirais, littéraire, parce que c'est comme tout le monde en a parlé, que c'est une image toute faite pour tout le monde. C'est d'autant plus excitant d'y mettre un petit peu son propre regard et sa propre empreinte, parce que voilà, c'est un petit peu un défi, quoi.
Pardon, vous pourriez le faire n'importe où au monde.
Oui.
Vous pourriez très bien aller à Arles aussi.
Mais c'est plus amusant.
Ville de photos.
Ce qui a été infiniment traité, c'est bien de trouver le truc qui n'a pas été vu.
Bah oui, il y a quand même un petit côté paradoxal qui me séduit. Moi, j'aime que les paradoxes. Mon Dieu, en littérature, c'est Proust qui n'est fait que de paradoxes. Parce que c'est vrai que, bon, quand on tombe sur un bouquin qui commence par le désir de trouver le sommeil me réveillait, tiens, ça, c'est un gars qui pense d'une manière qui va me plaire, quoi. Donc, et bon, ben voilà, Venise, c'est tellement le sujet que c'est par définition le sujet qu'il faut ne pas prendre. Et donc, ça donne envie de le prendre.
Votre vie est faite d'oxymores.
Oui, absolument.
C'est comme vous aimez la culture et vous venez ici. Ouais. Avec plein de paradoxes.
Mais est-ce que Paris pourrait être le sujet aussi de votre vision? Vous parliez de photos au Canal Saint-Martin.
Oui, alors on a fait un livre, mais qui n'était pas, enfin, où les textes étaient plus présents, enfin, de Philippe. C'était un livre qui s'appelait Paris l'instant.
Pour le coup, c'était plutôt Martine qui prenait. Alors là, c'était un exercice différent.
De l'argentique. Et du coup, là, j'avais les 24 poses, et c'était, en fait, Philippe écrivait sur les photos, là. C'est moi qui me baladais toute seule dans Paris. D'accord. Je prenais des photos de Paris, parfois des photos, je sais pas, des serpillères dans un caniveau, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y avait un peu des gens qui me regardaient, parfois, ils se demandaient ce que je faisais à genoux, presque.
La police est intervenue.
Et puis, Philippe, après, et c'est là j'avais pris pas mal de gens. Et ça a été très décevant parce que j'avais des photos, enfin, que je trouvais très poétique de gens dans Paris. Et il n'y a qu'une personne qui a pu rester, c'était l'homme qui faisait le guignol aux Champs-Élysées, parce que là, on a pu le retrouver, aller lui demander l'autorisation, on savait où le trouver.
D'accord.
Il a accepté, il a vu les photos, il a accepté.
Voilà pourquoi il n'y a pas de personne aussi représentée peut-être à Venise. Et puis au-delà de ça, j'ai la sensation qu'on n'a pas besoin de voir le visage des gens pour entrer dans une ville.
Oui, tout à fait. Ah bah oui, c'était un principe de base, quoi. Là, c'était vraiment la matière, la chair de Venise que j'avais envie de photographier.
Et ça semble inépuisable.
Mais c'est pas, pardon, Leïla, c'est pas le cas des textes, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les textes.
Oui, c'est vrai.
Mais ça compense peut-être d'une certaine façon l'absence sur les photos. Il y a une ombre, on voit une silhouette hein, sur une photo, donc il y a quand même une présence humaine. Mais dans les textes, en effet, là, vous racontez plus les personnes que vous pouvez croiser.
Oui, bien sûr. Et parfois, Martine, dans ses photos, a évoqué, par exemple, il y a une fenêtre où on voit juste une main qui tient un cigarillo. Donc, mais c'est juste évoqué. Puis cette façon de voir, de saisir le cadre, la lumière, c'est une façon d'y être aussi. La façon de photographier un banc, c'est aussi photographier la façon dont à Venise, c'est ça qui est frappant, à Venise c'est une ville, j'appelle ça une ville de silence, parce qu'on entend la voix, la rumeur qu'on entend dès qu'on quitte le Grand Canal, c'est la voix des gens. Et ça c'est quand même, c'est magnifique quoi. Quand on arrive, c'est ce qui est saisissant, c'est magnifique que la musique ça soit la voix des gens. En plus c'est vrai, un accent assez musical.
C'est une langue qui chante.
Les gens qui s'interpellent comme ça.
Et ça semble inépuisable en fait. Venise semble être un sujet inépuisable.
Écoutez, nous on le ressent comme tel, parce qu'on l'a découvert tard. Donc, une cinquantaine d'années, il y a 20 ans. Et depuis, on y va deux ou trois fois par an, tous les ans, sauf en temps de pandémie, malheureusement. Et d'ailleurs, on a une grande envie d'y retourner. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on se disait, ah bah tiens, notamment Bruges était une de nos villes aussi, mais là, chaque fois qu'on se dit, il faudrait qu'on reparte faire un petit tour quelque part, c'est toujours Venise. Et Venise, éternellement nouvelle, c'est vrai que c'est incroyable.
Comme on a dit que aussi bien la poésie que les photos sont l'expression de vos émotions, vous arrive-t-il de ne pas être en phase avec une émotion vécue sur une photo ou sur un texte, en disant bon ok, c'est ton point de vue, mais c'est pas forcément le mien.
Ouais, c'est arrivé souvent qu'on soit pas en phase.
Traduisez la question.
En fait, c'est signal de l'information est libre.
La traduction, attention. Non, mais ça nous est arrivé, parce que c'est pour ça que j'avais envie d'un petit conseil de la bulle avec Martine, parce que c'est arrivé déjà pour un livre qu'on a fait ensemble qui s'appelle Fragile, où c'était des images de Martine sur lesquelles moi j'ai posé des textes en fait.
Et où il a dit n'importe quoi.
Et oui, très souvent ce que j'ai dit.
Et Vincent, on a fait une chanson.
Voilà, oui, c'est ça. Mais souvent ce que j'ai dit était parfois même très, très différent de ce que Martine avait voulu dire dans son image.
C'est bien, c'est une forme de complémentarité aussi.
Vous
faire passer des messages.
Les mêmes choses. Est-ce que Venise, alors vous dans les textes cette fois-ci, vous dénoncez les verreries qui viennent de Chine et les masques fabriqués d'une manière industrielle qui viennent un peu tuer la magie ou la sincérité?
Disons qu'en tout cas, c'est vrai que dans l'imagerie comme ça que l'on a a priori sur Venise, il y a beaucoup les verries et les masques et le carnaval.
De toute façon, les souvenirs, entre guillemets, ne sont pas que ça. Oui.
Voilà, les souvenirs, et maintenant, c'est vrai que les souvenirs sont fabriqués en Chine, que maintenant, quand on va
partout,
à Murano, bon, on a bien quelqu'un qui vous fait la démonstration de souffleur de verre, mais en fait, bon, c'est pas trop crédible, parce qu'après, tous les objets qu'on voit, effectivement, sont plutôt faits en Chine. Ce sont il y a très peu de temps, des bateaux immenses qui déversent des tas de touristes qui viennent souvent de Chine pour acheter du Murano fait en Chine.
Donc, c'est toujours autorisé, les arrivées d'énormes paquebots?
Ça
vient d'être interdit.
Alors, j'avais des photos de Philippe dans les drapeaux, nos navis, nos grands dits navis.
On a manifesté contre les grands navires.
On a participé à tout.
C'est grâce à vous, alors.
Bah oui, en gros.
Est-ce que vous avez quand même vos habitudes au-delà du rendez-vous de l'apéro avant le déj? Vos habitudes d'adresse, de bons petits restaurants, d'hôtels? Est-ce que vous avez toujours la même chambre dans le même hôtel?
Oui.
Comme un...
Oui. D'accord. Et d'ailleurs, le livre est dédié à quelqu'un qui est Carlo Palmisano, qui est notre hôte à Venise, qui est devenu un ami, qu'on aime énormément. Et on est à une toute petite pension dans le Dorso d'Ouro.
C'est pas l'adresse que je demande, mais c'est...
Un guide du routard, on
veut. Vous n'avez pas routard, bah, oui,
si, puis on a des petits restos qu'on aime bien, voilà. On a...
Un club de striptease aussi.
Pardon.
Très, très prisé.
On a un resto qui n'est pas du tout dans les guides, et il y a eu un grand plaisir à citer ce nom, parce que c'est Nono Risorto, et c'est un nom qui est comme un polichinelle à lui tout seul. Quoi.
Vous l'écrivez, oui.
Et en fait, c'est un nom d'un endroit qui est très simple, et c'est dans une court, on est bien, bon, on mange avec du foie de veau à la polenta, et puis c'est pas cher, et puis voilà, et puis on sent que les gens qui passent ont envie comme ça de cette lumière, et puis ils finissent par et Martine avait eu un certain succès pendant la pandémie l'an dernier, ça nous manquait tellement Venise qu'elle avait écrit, ce soir on va à Nono Risorto, et le seul nom de Nono Risorto, ça fait qu'il y a...
J'avais mis quelques photos aussi, voilà. Donc il y avait plein de gens qui s'inscrivaient pour venir à Nono Risorto, il y en a qui envoyaient des photos de Venise en disant « Nous sommes déjà là !»
Est-ce que c'est une destination que vous partagez, Venise, ou elle est simplement rien que pour vous deux ? Est-ce que vous emmenez avec vous de la famille, ah oui, des amis, ou est-ce que vous la gardez jalousement?
On est allé une année avec Vincent et donc sa compagne et nos deux petits-enfants.
Quelle
et
folie!
C'était une folie, parce que c'est, ce qui était génial, c'est qu'on prend le train de nuit. Alors imaginez prendre le train de nuit avec le compartiment, avec 6 couchettes, et là on est 6. Et c'était génial, quoi, avec les enfants qui lisent le soir, et puis on débarque à Venise. Et eux, à l'époque, déjà, ils cherchaient que des coins pour jouer au foot, et ils ont réussi à jouer au foot dans tous les coins de Venise.
Les fragments vénitiens. Fragments vénitiens, pardon, il n'y a pas d'article. Fragments vénitiens. Signé Martine Delerme, Philippe Delerme, Martine pour les photos, Philippe pour les textes publiés au Seuil. Voici Florence Mendès.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du ver de terre. Voilà, alors quel rapport avec mon sujet du jour? Aucun. Je savais juste pas comment commencer. Pardon. Ça y est, j'ai trouvé. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui prennent le temps de commenter mes chroniques. Spécialement ceux qui, en cet octobre rose, prêtent une attention si particulière à mes seins. Poitrine, point d'exclamation, écrit par exemple Fred. Mais oui, Fred, poitrine. Maintenant, retourne te toucher devant Dora l'exploratrice. Sacré mamelle, nous dit Michel, qui vit à la ferme et tête encore sa tante. De gros nibards, il y a du monde au balcon. Le bon lait, la reine des cravates de notaire. Bref, messieurs, merci. Ah ben voilà le rapport. En cette journée mondiale du ver de terre, permettez-moi de souhaiter bonne fête à vos bites. Mais revenons-en à ce dont je voulais vous parler. Molière, c'est chiant, a déclaré Capucine Anave, la comédienne. Non, on ne juge pas, c'est son droit. Pour elle, tout ça, c'est secondaire. Voilà la culture, la science. Écrire son prénom en lettres attachées, suffit, j'ai dit. Suffit, on ne se moque pas. On n'est pas obligé de tout savoir non plus. Voilà, tenez, moi j'ai appris il y a peu que Stéphane et Cher, c'était pas un duo. Bon. Je suis désolée, je peux pas. Évidemment qu'on juge, évidemment qu'on juge. Elle a pas seulement dit Molière, c'est chiant, elle a ajouté, et je cite, « Je suis fan de sa carrière voilà. ». Pour ceux qui voient pas, hein, Capucine, c'est une ancienne candidate de Secret Story, hein, qui passait un quart d'heure devant sa garde-robe en disant « Oh là là, j'ai rien à me mettre, t'inquiète, il y a au moins 3 garçons dans la maison qui ont une solution ». Bref, elle est ensuite devenue chroniqueuse dans « Touche pas à mon poste ». Alors vous allez me dire « Oui, non, Florence, tu vas encore dire du mal de Cyril, c'est faux ». Voilà. Moi, j'ai rien contre Hanouna, la preuve, j'ai de très bons amis cons. J'avoue, je peux pas l'encadrer. Je suis sûre qu'enceinte de lui, sa mère, jusqu'au bout, elle a espéré que c'était une gastro. Et il a écrit un livre. Non. Il a écrit un livre. Alors, c'est bien un livre, mais avant d'en écrire un, le mieux, c'est quand même d'en lire plusieurs. Mais ce qui m'énerve, c'est que maintenant, voilà, on ose parler de dictature intellectuelle et on traite d'élite toute personne qui entend s'éduquer. Alors que ce qu'il nous faut maintenant pour lutter contre les extrêmes, ce sont des armes d'instruction massives. Ça me désespère. Voilà, ça me désespère. Aujourd'hui, la télé, c'est C8, où on donne la parole à des types tellement cons que s'ils passaient leur journée à se compter les couilles, ils n'arriveraient pas deux fois au même compte. 86 milliards, c'est le nombre de neurones que possède en moyenne un humain. Mais qu'est-ce que tu veux que ces gens-là en fassent? Clairement, c'est superflu, c'est comme Daniel Morin, c'est comme si Daniel Morin, il avait une chambre d'amis.
C'est pas faux.
Superflu.
Alors,
inutile.
Qui veulent s'amuser dans leur coin, c'est très bien, pas de souci. Vas-y Cyril, tu peux jouer, continuer avec... Pardon, excusez-moi, je recommence. C'est l'AVC. Alors, qui veulent s'amuser dans leur coin, très bien Cyril, pas de souci. Tu peux jouer avec tes amis au qui a pété, le jeu où il faut deviner qui s'est capété. Mais par pitié, reste donc en dehors de la politique, hein. J'aime pas menacer. Mais si les cons commencent à décider pour nous, je vous préviens, on va prendre des mesures, on va retirer les étiquettes, ne pas boire de tous les produits dangereux. Pardon, j'avais dit que je resterais calme.
Ah oui.
Et je sais ce qu'on va me dire, Florence, on parle pas aux cons, ça les instruit. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec les cons? De légal, j'entends. Allez, c'est tout.
Merci, Florence.
Et Florence, tu joues sur scène?
Mais oui, et figurez-vous que ça a marché, votre message de la dernière fois, parce que c'était plein, un peu comme mon père.
C'est la petite loge.
Voilà, je joue à la petite loge tous les mardis, donc n'hésitez pas.
Philippe Delerme, je vous ai vu réagir à qui a pété une idée de libre.
Il a juste dit c'est moi.
Avec Martine qui fait les photos.
Isabelle Cana, présidente de l'association Les Ailes de Venise et qui œuvre pour un tourisme plus vertueux, sera notre invitée dans quelques instants, parce que aussi, lorsque l'on voit Venise par le prisme de votre plume et de votre objectif, on se demande si ces années de fatigue, d'érosion qui vous touchent, qui vous émeuvent, ne sont pas aussi une fin annoncée et un danger. Alors, il n'y a pas que la montée des eaux, mais la surpopulation touristique le maltraite finalement cette ville. C'est une manière pour vous de la défendre aussi?
Bien sûr, je pense que pouvoir avoir la chance de faire un livre comme ça, avec des photos où on n'exige pas de vous que vous photographiez la place Saint-Marc ou le Rialto, c'est vraiment une chance, parce que en fait c'est un regard qui est partagé par beaucoup de gens qui aiment Venise. Il n'y a pas que les gens qui ont un énorme appareil photo sur le ventre et
arrêtez de taper sur le micro, vous n'avez rien fait.
Mais je pense que c'est bien d'imposer un regard un peu précieux, un peu poétique.
Et d'aller aussi souvent là-bas, c'est parce que vous avez l'impression que ça va, il y a une fin qui est peut-être proche.
Non, je crois qu'on...
Il parle de Venise, hein, pas de Venise.
Oui.
Je pense qu'on est, on aime beaucoup, en plus, quelque chose qui n'apparaît pas dans les photos spécialement, c'est que c'est une ville totalement sans voiture. Et quand on est fatigué, quand on a besoin de se ressourcer quelque part... on marche.
Et sans trottinette.
On peut prendre toutes les photos qu'on veut sans se demander s'il y a une trottinette qui va.
Il peut y avoir un livreur qui, qui vous bouscule.
Oui, mais il dit permesso.
Permesso,
attentionné. Se fait posséder
de l'intention. De manière un peu agacée.
Et ça permet beaucoup, quand on est créateur, d'avoir du temps pour penser à des projets, pour se ressourcer vraiment. Quoi.
Le choix du mot fragment n'est pas naïf, parce qu'il y a évidemment des bouts de Venise, mais aussi il y a des cassures.
C'est vrai. Il y a eu un moment comme ça où il y avait quelqu'un qui me disait, mais comment définir ce que tu fais donc en littérature? Il m'avait proposé une expression qui était quand même un peu snob, c'est une littérature fractale. Cette idée, dans un atome de neige, il y a toute la neige. Je dois reconnaître que c'est vrai, c'est ça mon but secret, la plus grande envie, c'est qu'un indice...
Que les petites choses
symbolisent
les grandes choses.
Symbolisent les grandes, soit un atome des grandes, en tout cas, fasse voir les grandes. Et c'est vrai que fractal, fragment, ce sont des termes qui nous plaisent, c'est sûr.
La musique dans la vie de Martine et Philippe Delerme, on sait à quel point elle n'est pas importante, étant donné votre fils Vincent. vous avez écouté en 76... Oui, votre gratuite. Ouais. En 76...
Il en tait déjà les boutiques.
Ça, c'est plutôt vous, Martine ?
Non, c'est plutôt Philippe.
D'accord. Très bien.
À l'époque, j'avais envie de faire des chansons, notamment.
Mais vous avez commencé à être dans la veine un peu d'un Yves Duteil ou d'un Cabrel, c'est-à-dire guitare-voix et le professeur de français qui chante.
Ah oui, mais là, en l'occurrence, je chantais les autres, et puis notamment les textes des autres qui soutenaient l'explication de texte en classe.
En l'occurrence, Nicolas Perrac ?
Ah non, pas vraiment, non, parce que bon, de toute façon, un texte comme celui-là. Mais c'était un tube sympa, avec mon père. C'était un tube qui était, c'était sympa que ça puisse
sympa, pas avec tout le monde, parce qu'il
vitriole
dans les paroles.
Hein. Avec Aragon, et tout ça, voilà.
Et Philippe, les chansons, c'était pour plaire aux filles ?
Oui. Alors là, au départ, c'est vrai que c'était vraiment, au début, la première guitare achetée, je parlais tout à l'heure de mes petits-enfants, mais c'est vrai que j'ai récemment acheté une guitare pour mon petit-fils aîné Sacha, dans le même magasin où j'ai acheté une première guitare quand j'étais en seconde. C'était quand même 55 ans après, donc c'est quand même assez sympa. Et c'est vrai que c'était, notamment, première chanson apprise, une chanson d'Anne Sylvestre, donc qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, qui était Lazare et Cécile. C'est vrai que c'était pour plaire aux filles, mais...
Et vous avez dragué Martine avec la guitare?
Quasiment, puisque j'avais un copain qui avait un...
Elle dit oui de la tête, en tout cas.
J'avais un copain qui avait un magnétophone 4 pistes et qui m'a dit ce serait sympa que tu enregistres. Alors on chantait Jean Ferrat, Gilles Vigneault, etc., Jacques Brel, et puis Barbara Anne Sylvestre. Et donc j'ai enregistré une cassette, et cette cassette, elle contenait des chansons qui ne plaisaient pas du tout aux filles avec qui j'avais commencé à sortir à 15 ou 16 ans, mais j'ai dû attendre 4 ou 5 ans pour que ça plaise à une fille. Et là, pour le coup, ça a été un peu pour la vie. Quoi.
Bah oui, 50 ans plus tard, elle est toujours là, la fille. Ouais. Elle a gardé la cassette.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez arrêter de raconter cette histoire, parce que
tout le monde déprime, c'est ça, en disant on pourra.
Enregistre des chansons, voilà, c'est ça. Et,
oui, et commencer à écrire des rires et chansons.
Commencer à écrire des chansons, Philippe, c'est aussi la voie pour raconter des histoires, aller en vie vers l'écriture, se sentir plus autorisé à y aller.
C'était surtout une voie pour rompre la mélancolie, en fait, du gars qui écrit des bouquins qui sont pas publiés. Parce que pendant presque 10 ans, ça a été mon cas. Et qu'à l'époque.
Mélancolie ou déprime ?
Déprime. Et puis bizarre, bizarre sensation, trouvant que j'avais une vie qui était super, parce que j'adorais mon métier de prof de lettres, je vivais avec la femme que j'aimais. Ouais, j'avais, voilà, je commençais à avoir un enfant aussi qui était pas inintéressant, franchement. Bon, donc j'aimais beaucoup ma vie, quoi.
Ouf.
Et donc, mais en même temps, il me manquait un peu une forme d'essentiel qui était de réussir à transformer tout ça en parallélépipède rectangle, en livre, quoi. Et en fait, ça a mis quand même 10 ans, mais le fait de chanter des chansons, parfois des chansons même que je pouvais composer, c'était une façon, voilà, on peut pas emmerder des amis en leur confiant un manuscrit qui est dévalué parce qu'ils savent qu'on n'a pas trouvé d'éditeur.
Oui.
En fait, donc, on le fait pas. Et oui, par contre, chanter des chansons, ça se fait, quoi.
Oui, et puis ça traduit des émotions, que ce soit le dessin, les photos, les textes, la musique. On est dans toutes les manières d'exprimer ce qui peut y avoir de plus profond en nous, qui ne résonnera pas toujours de la même manière chez l'autre.
C'est sûr, c'est vrai. Et mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même cette espèce de fourche codine de l'édition qu'il faut passer quand on accepte ce jeu-là, et quand on vraiment rêve de ça, transformer sa vie en livre, c'est quelque chose qui manque moins quand on chante des chansons. Et puis c'était une époque, voilà, qui était assez baba cool aussi, où quand on se retrouvait entre amis, on sortait facilement une guitare, et c'était une belle époque.
Ça continue encore, hein, ça.
Ouais, c'est
89, vous écoutiez tous les deux. Ça, c'était les soirs de fête.
14 juillet.
Lorena McKennitt.
Non, c'est plus moi.
La neige.
Ah oui, j'adore mettre des musiques très tristes quand je dessine. Qui m'accompagne, et surtout dont je ne comprends pas les paroles, et voilà, un charme qui m'accompagne, voilà. S'il peut pleuvoir dehors, c'est encore mieux.
Mais c'est vrai, si que ça se trouve, les paroles, c'est « je jouais au beach volley avec mes potes »,
et tout. Je ne veux pas le savoir.
Bah, c'est ça, l'avantage de ne pas comprendre les paroles, c'est qu'elles ne vous sortent pas de l'imaginaire dans lequel vous êtes, quoi.
Oui,
voilà, votre réflexion.
Ça. Voilà,
c'est ça. Martine est fan de ce genre de chanteuse, avant-hier.
Enya.
On est allé.
Enya, il faut écouter Enya.
On est allé voir, oui.
Orinoco Flow, c'est formidable.
On est allé voir avant-hier Dom Lanena, qui est passé récemment dans votre émission et qui est aussi une des chanteuses dont Martine est fan.
Et Martine, vous dites que ça a été une aubaine finalement que l'éducation nationale vous envoie en Normandie.
Oui.
Parce que, alors, on se plaint toujours de l'attribution des postes et du mouvement, hein, pour les enseignants, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple d'être envoyé à l'autre bout de la France, loin des siens. Et finalement, la Normandie, c'est une aubaine pour vous. Pourquoi?
Bah, c'était une aubaine parce que d'abord, la chance a fait que c'était un endroit qui était joli. Bon, déjà, c'est important. Il y a des forêts dans ce coin-là de l'Eure. Il y a des forêts. C'est beau. Et puis, en plus, il y a rien. Donc, il faut avoir une vie intérieure très grande. Et puis, quand vous êtes prof de lettres, vous avez beaucoup de travail. Mmh. Donc, on avait réussi le truc de ne pas avoir la télévision et d'être dans l'Eure. Et ça laissait du temps. Voilà. Ouais. Donc, c'était formidable parce qu'on pouvait à la fois faire son travail de façon chouette avec des clubs théâtre, des choses comme ça. Et s'investir vraiment, parce qu'on adorait notre métier. Et puis à côté, bah, il restait quand même du temps pour, un peu de temps pour...
Vous dites travailler votre technique, voilà, continuer à grandir, évoluer.
Voilà, on avait même fait une soirée, hein, le mardi soir, où avec des amis, on se regroupait pour...
Un bingo.
Pour écrire, ou pour dessiner, pour s'obliger à libérer du
là-dessus.
Temps. Quoi.
Vous parlez de la télévision, et quel rapport avez-vous à la radio, à la télé, aux médias en général, à la presse? Est-ce que, en étant justement amoureux de l'écriture, vous avez un journal, un quotidien ou un hebdo qui vous suit depuis le début aussi?
Filou.
Hein? Ah, mon fils.
Non, mais en fait, on regarde quand même assez souvent la télé. On aime bien la candidate actuelle de N'oubliez pas les paroles.
C'était pas pour ça que je vous posais.
Je suis Nagui Sopano avec Marqué.
Est-ce que vous. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle fait un parcours.
Moins le présentateur.
Il parlait de fourche codine tout à l'heure, c'est parti aussi. Non, mais de lire, est-ce que la presse écrite, est-ce que vous avez un rapport aux journaux quotidiens?
Non, en fait, je vous cache. Je ne cacherais pas qu'on a un rapport assez éloigné avec la presse écrite, notamment parce qu'on est quand même un petit peu iconoclaste, voire rebelle, c'est-à-dire qu'ayant vécu longtemps dans des salles de professeurs, puisqu'on a fait tous les deux une carrière entière de prof, ça nous agace souvent les avis qu'ont tous les gens qui sont tous les mêmes sur les mêmes choses dans un certain milieu, en l'occurrence le milieu prof. Et donc, et en plus, en fait, le fait de connaître après les gens des médias et les gens qui écrivent dans les journaux, de savoir que finalement l'avis d'une personne, c'est pas l'avis d'un journal qui paraît faire autorité pour tout le monde dans un certain milieu.
Oui, mais c'est le principe de l'éditorialiste.
C'est le principe de l'éditorialiste. Mais si vous voulez, vous avez beaucoup de gens, et notamment, les professeurs sont pas les gens les plus stupides de la terre, mais ils ont quand même une sacrée tendance à considérer comme du pain béni tout ce qui leur vient de certains organes de presse. Et nous, c'est une façon de voir et de penser qui nous agace souvent un peu.
En 97, vous écoutiez
Manon, tu viens de la Vauvie avec du mystère plein les yeux et cette dévorance avide d'agripper tout ce que tu peux.
Alors c'est une chanson de Julius Bocarn qui vient de nous quitter. Et Julius Bocarn, c'est quelqu'un dont le départ n'a pas été beaucoup salué en France, mais c'est un chanteur belge, wallon, et qui a toute sa vie a un parcours à la fois d'humaniste et de chanteur, et avec qui nous avons été amis. Et c'était un homme absolument extraordinaire qui a mêlé, ses spectacles mêlaient le comique le plus joyeux, la poésie la plus tragique, puisque entre autres sa femme avait été assassinée. Et c'est quelqu'un qui a vanté toute sa vie la tendresse, l'humanisme, qui s'est engagé dans des causes pour l'homme. C'est quelqu'un qu'on aime énormément.
Qui malheureusement a fini de vivre avec Alzheimer. Et c'est vrai que c'est toujours une maladie très cruelle, et donc je suis bien placé pour la connaître. Mais quand il s'agit d'un homme en particulier de mémoire, comme ça, c'est d'autant plus terrible, je trouve, d'être frappé par cette maladie.
Et peut-être que vous êtes rendu compte que la musique, chez les malades d'Alzheimer, avait une force inouïe, c'est-à-dire qu'ils pouvaient oublier les propres membres de leur famille, mais que la moindre musique,
c'est
par
incroyable.
Contre, leur permettait de se souvenir.
On a accompagné notamment quelqu'un de très proche et qui est mort comme ça, et qui ne se souvenait même plus de ce que c'était qu'un brin d'herbe, mais qui, quand on démarrait une chanson de Trainette, est capable de continuer la chanson, voire même une chanson de Vincent Delerme. Donc, c'était assez étonnant.
Philippe, 97, c'est à la publication de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Et c'est à Martine que j'ai envie de m'adresser, puisque ce livre se vendra à plus d'1,5 million d'exemplaires. Les ventes continuent aussi, elles sont toujours importantes.
C'est un livre culte. Oui.
Un succès qui ne doit pas être simple aussi à vivre, puisque tout d'un coup, Philippe devient le point central de toutes les attentions, et vous êtes à côté, et peut-être moins considéré, sans doute par les gens qui reconnaissent Philippe. Il y a un phénomène autour de tout ça.
Oui, il y a un phénomène autour de tout ça, et puis il y a le choc de la vie, parce que au même moment, c'est l'assassinat de mon frère, et tout le monde me croise en me disant « Ah, qu'est-ce que vous devez être contente, qu'est-ce que vous devez être heureuse,
la
vie est belle. » Et comment, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit, voilà. C'était vraiment un tsunami, la première gorgée de bière. Et il y avait des choses vraiment comiques. C'est-à-dire qu'on s'était dit, on passera pour le téléphone, on se mettra en liste rouge, mais on va attendre décembre, comme ça on enverra tous nos vœux à tous nos amis, on mettra le nouveau numéro, etc. Et en fait, on avait été bien courageux de faire ça, parce qu'on recevait des coups de fil toute la journée, et c'était absolument stupide. C'était, sur la photo de tel magazine, vous avez un fauteuil comme ça, où est-ce que vous l'avez acheté?
Ah oui.
Enfin, ça prenait des proportions folles.
C'était une certaine rupture d'un équilibre qu'on avait trouvé. Mmh. Un équilibre un peu difficile, parce qu'on faisait des choses qui étaient pas si facilement publiables que ça. Martine, dans le domaine du livre jeunesse, avec des livres très exigeants et très poétiques. Et puis moi, ce que j'écrivais était pas a priori considéré comme spécialement commercial, mais on avait fini par faire exister ces choses et avoir trouvé une forme de reconnaissance discrète mais quand même réelle. Et tout d'un coup, c'est vrai que ça rompait complètement l'équilibre artistique qu'on avait trouvé dans notre vie de couple.
Mais c'est à faire peur à tous les auteurs. La rencontre du succès semble être une catastrophe.
Et en même temps, on a pris très vite la décision, je crois, qui était bien, c'est-à-dire qui n'était pas si facile, c'était
de ne plus avoir le téléphone.
De continuer à être professeur à fond.
Oui.
et de rester où on habitait, quoi. De rien changer à notre vie, en se disant, c'est si on a une chance de...
Et finalement, ça fonctionne. Avec le recul maintenant, parce que autant il y a eu la pression immédiate.
Voilà, pendant un an ou deux, c'était très lourd.
Il fallait laisser passer la vague.
Voilà.
C'est pour ça que Morgane et moi, on a décidé de pas avoir de succès.
De succès.
C'est très bien.
Morgane, c'est pour rien, mais elle t'a mis dans le lot.
Voilà. Petite balle perdue.
On va continuer d'évoquer évidemment ces fragments vénitiens publiés au Seuil avec Martine et Philippe Delerme. Et puis il y a un autre ouvrage aussi qui s'appelle Ici, que vous avez également fait à 80.
Oui, alors ça
80.
C'était pour fêter en fait les 20 ans de Fragile, puisqu'il y a 20 ans on avait publié Fragile, j'avais fait des images et Philippe avait écrit les textes. Et on...
Oui, il n'avait pas compris donc les images.
voilà, exactement.
Avec le temps, il a mieux compris.
Bah oui. Et là, donc j'ai fait des images dans un album qui s'appelle Ici, et Philippe a écrit tout le texte.
Voilà. Et moi, je tiens à préciser qu'il y a un album jeunesse de Martine que j'adore qui s'appelle Peut-être.
Ah, c'est très gentil.
Que j'aime beaucoup et qui est très lu à la maison.
Mais moi, j'ai pas compris les images.
J'espère que vous aimerez ici. Alors.
Isabelle Cana, bonjour et merci de venir à ce micro. Vous êtes présidente de l'association Les Ailes de Venise qui œuvre pour un tourisme plus vertueux, respectueux, j'imagine.
Tout à fait.
En proposant aux voyageurs d'avoir une action, à part de voyager, de profiter de Venise, d'avoir une action sur le terrain. Alors, quel genre d'action? C'est écologique?
Alors, c'est un média web. Hein. C'est adossé à une communauté qui est très présente sur Facebook et les réseaux sociaux et les newsletters et qui parle en continu de Venise poétiquement, historiquement, culturellement, mais aussi d'une façon engagée. C'est-à-dire qu'on s'est donné une mission qui est de réinventer le voyageur à Venise, le voyage et le voyageur, en lui permettant de s'engager concrètement dans la ville.
Donc d'être un voyageur responsable.
Exactement.
En faisant quoi concrètement?
Alors concrètement, un pourcentage des bénéfices du média est consacré à offrir du matériel à des associations vénitiennes. Par exemple, des associations qui nettoient les graffitis des murs, Mazzini e Nizzoletti, et on leur offre des pinceaux, de la peinture, du gel anti-graffiti. Vous avez
Parce que Venise est attaquée entre guillemets par des touristes.
Clairement. Bah, Venise est devenue malheureusement, depuis des années, un centre de beuverie le soir de plein de gens qui débarquent et qui vont boire. Et
pas
ensuite
que le soir, déjà midi, il y en a qui courent.
Défoncé au spray.
Et clairement, oui, il y a un problème de graffiti. On veut faire aussi connaître la jeunesse vénitienne, parce qu'il y a quand même, même si le dépeuplement est un des problèmes de Venise, il y a quand même encore des jeunes qui s'engagent pour récolter les déchets plastiques, secourir les sinistrés, les personnes âgées, parce que Venise est une ville très vieille, et qui vont leur porter secours quand il y a des aqualta, par exemple, comme on a vu il y a deux ans l'aqualta terrible de 2019. On leur offre, par exemple, à ceux-là, des chariots, des récoltes. On leur permet la récolte en offrant des gants,
des chariots, pour quoi faire? Pour sortir les vieux de l'eau,
c'est ça? Vous savez, quand l'eau arrive à un mètre de chez vous, vous avez pas mal d'objets qui flottent et qui sont foutus.
Et Venise, après avoir vécu cette pandémie pendant un an et demi, Venise sans tourisme, est-ce que...
C'est le paradoxe. Alors, vous parliez, Philippe, de paradoxe perpétuel. Venise est un paradoxe. C'est une ville qui ne peut pas, aujourd'hui, vivre sans le tourisme, dans la mesure où 2 emplois sur 3 sont consacrés ou liés indirectement au tourisme. Et en même temps, c'est une ville qui est tuée par le tourisme.
C'est ça.
Le tissu social de Venise est complètement en désagrégation. Les habitants fuient de leur ville. Aujourd'hui, il n'y a plus que 50 000 résidents dans le centre historique de Venise. Et une fuite, fuite ou mort, hein, parce que comme c'est une population âgée, il y a aussi des morts, de 1000 habitants par an. Donc vous voyez, 50 000 dans 50 ans, s'il n'y a pas de renouvellement.
Le premier problème, me semblait-il, moi, pour Venise, c'était le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, la montée des eaux, les algues. Évidemment, on a parlé des grands bateaux qui déversent des flots de touristes, mais c'est surtout le dérèglement climatique, non?
Tout à fait. C'est une double peine. Il y a certes le dérèglement climatique qui amène à la montée des eaux, et on prévoit plus d'un mètre sur 100 ans, mais aussi Venise s'affaisse. Venise s'affaisse parce qu'elle est sur une plaque tectonique qui s'affaisse. Et en même temps, il y a eu des choix industriels qui ont été mal faits dans les années 70. On a pomper les nappes phréatiques de Venise pour aller alimenter un port à Marghera, pas très loin, une zone industrielle. Et du coup, on a créé des poches d'air sous Venise, qui fait qu'avec le poids des palais, Venise s'enfonce. Donc vous avez parallèlement la montée des eaux et l'affaissement de la ville.
Donc quelle est la solution? C'est de mettre des... consolider. De soutenir alors, en dessous les pilotis, de faire un matelas gonflable.
Alors, il y a des projets, mais qui ne sont pas encore considérés officiellement, on va dire, où des scientifiques disent qu'il faut injecter de l'eau dans les nappes phréatiques pour faire regonfler la ville.
C'est ça.
Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la construction du Mosée, là, le fameux chantier de ces digues qui vont se soulever pour freiner la mer. C'est un chantier qui a coûté 6 milliards d'euros. 20 ans de travaux, ce qui a donné lieu à des tas de corruptions. Et ce chantier-là est opérationnel depuis octobre, donc c'est là une des bonnes nouvelles, mais il nécessite une maintenance extrêmement lourde, plutôt 40 millions par an, qu'il va falloir sortir si on veut le maintenir à...
Tout ce que nous dit Isabelle Cana, vous l'avez présent à l'esprit, vous rendez pas compte de ça quand vous
y allez. Bien sûr.
Et les Vénitiens en parlent?
Nous, on connaît très peu de Vénitiens. On connaît un Vénitien très bien qui en parle. Voilà.
Vous pensez que vous avez une responsabilité sur la déchéance de Venise?
Visiter Venise en humeur, c'était une si bonne idée.
Les ailes de Venise, cette association donc, qui œuvre pour un tourisme plus vertueux, ça veut dire que si on veut partir en week-end ou en vacances à Venise, il vaut mieux s'adresser à vous, entre guillemets, pour ne pas avoir
un
une
voyage à Venise doit se préparer. Donc il faut se cultiver sur Venise avant d'y aller.
Mais vous n'êtes pas une agence de voyage?
Non, absolument pas. On est vraiment plus dans une agence, enfin c'est pas une agence, c'est un média web qui fait connaître Venise et qui propose un programme pour être un voyageur différent.
Les ailes de Venise, Isabelle Cana, merci d'être venue à ce micro Isabelle. On retrouvera Jérémy dans la deuxième partie de cette émission, tout comme vous Tanguy Passureau, avec quoi?
Je vais vous parler du salon Millipol, celui des armes létales et de la haine entre états souverains.
Original avec Elina Kadogodani, Morgane Gadignan, Florence Mendes, Tanguy Pascureau, Jérémy Crédville, Daniel Morin et nos amis Martine et Philippe Delerme. Pour les fragments vénitiens publiés au Seuil, nous allons parler de ces fragments. Est-ce que, au-delà de ces bouts de Venise que vous êtes allés récolter en photo et en poésie, il a fallu faire un tri, il a fallu ordonner? Est-ce qu'on écrit un livre de photos comme on écrit, comme on fait un livre, c'est-à-dire en faisant un plan de travail ou une thèse, antithèse, synthèse, que sais-je?
Oui, il a fallu bien sûr beaucoup réfléchir avant, parce que c'est vrai que j'aurais pu avoir envie de faire justement un livre de gens à Venise, d'autres thématiques que j'avais, parce que j'ai pris énormément de photos en 20 ans, donc c'était il fallait faire un choix drastique.
Il a fait des enfants à Venise, par exemple.
Ah oui, j'ai fait beaucoup de photos d'enfants à Venise qui sont voilà, qui me tiennent vraiment à cœur. Mais là, j'ai pris
qui maintenant sont majeurs, hein, quand même. Est-ce que lorsque vous mettez, puisque toutes les 4-5 photos, il y a un texte de Philippe, ces espèces de mini-chapitres ou d'aérations sont construits entre eux? C'est-à-dire, vous apposez une photo avec une autre, ça a un sens aussi?
Oui, c'était soit les photos se répondent, soit par des schémas...
Ou des ambiances de couleurs.
Ou des ambiances de couleurs, ou des thématiques profondes, mais les photos sont vraiment choisies l'une pour être en face de l'autre.
Le rouge avec le sang qui coule et qui est nettoyé par le jet d'eau.
Oui.
Voilà. On mélange le rouge présent sur les photos et dans le texte de Philippe, il y a ce rouge qui...
C'est le rouge du Spritz aussi.
D'accord. Ça doit être ça.
Camp Paris, tout à fait.
Paris,
attention,
les meilleurs.
Le dosage. Voici Jérémy Crédville qui part en live.
Ok.
Quoi?
Ok. Ouais, c'est trop cool. Il y a un documentaire sur Orelsan qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Montre jamais ça à personne. C'est ce que j'ai dit à Daniel quand il m'a fait voir son herpès. Montre jamais ça à personne, Daniel, jamais. Même à un médecin, c'est chelou, c'est limite vivant, ça parle et tout.
Je ferai pas.
Ouais. J'aurais pu vous parler de ce documentaire de ouf, mais j'ai autre chose dans la tête depuis 6 semaines. Parce que ça fait 6 semaines que je danse en direct tous les vendredis sur TF1. Vanagui est au courant, il a pris une sacrée douille en faisant chanter des quasi-professionnels de la chanson pendant que la chaîne concurrente faisait danser des parfaits amateurs de la danse. C'est la vie. Danser. Danser, 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 danser. Dans cette émission, j'ai même plus le temps de penser. Ma tête est remplie de mouvements de déhanchés. Des comptes qui démarrent à 5 et qui finissent à 8. Devoir bouger son corps quand on remue comme une huître. Chaque semaine, quand je me retrouve sur le parquet, comme le bouton de ma chemise, je suis à deux doigts de craquer. Ouais. Faut dire que les habilleurs n'ont pas trop de taf. Une semaine sur deux, je suis à moitié à poil dans Dals. Ma partenaire de danse m'a dit « Tu vas t'étonner ». Et c'est vrai que torse nu avec la clim, j'ai t'étonné. Parce qu'à la base, moi, j'ai pas ma place dans Dals. Les humoristes pas connus sont pas connus pour faire la valse. Le rythme est effréné, pas le temps de fanfaronner. Je passe plus de temps par jour à danser qu'à respirer. Mais je ne suis encore qu'un danseur de ballet dans le cul. Raide comme une bite de prêtre devant un scout dans la rue. Trop massif, pour le parquet, pas massif. J'assure pas assez comme le contrat de bâcher massif. Moi, pour m'apprendre deux minutes de Corée, faut être plus que carré qu'au nord de la Corée. Enfin, tu vois quoi. Je peux vous dire sans mentir que ma partenaire de danse est plus patiente qu'une patiente qui saigne pas aux urgences. Sauf qu'au bout de 6 semaines, je commence à kiffer. Parce qu'au bout d'un moment, à force de taffer, j'aime la danse, je le ressens de plus en plus. Ça fait battre mon cœur comme quand petit je rate le bus. Je garde mon cadre, épaule basse, coude levé. À la fin de ma presta, j'attends les notes des jurés. Une semaine à danser 8 heures par jour. Et au bout de 2 minutes, on peut te mettre un 4 en retour. En vrai, je m'en tape. Ce qui fait que je garde le cap, c'est qu'à 200 bornes de là, il y a ma fille qui me regarde. Et je suis plutôt content pour rien. Juste parce que j'ai bougé mon corps sur du contemporain. J'ai valsé, j'ai tangué, j'ai passé au doublé. Et je suis encore là-bas, je vous jure, ma place, je l'ai pas volée. Je fais des efforts pour être 2 fois plus fort. Pour trouver de la souplesse et de la grâce dans mon corps. Avant, je croyais que Rumba, c'était un aspirateur. Maintenant, je sais que c'est la danse qui met la ménagère en sueur. Ma danse était tragique, il n'y avait rien de magique. Je bougeais quand même beaucoup moins bien qu'un tétraplégique. Maintenant, je veux continuer, je veux pas m'arrêter. Comme un P pendant une gastro, je veux vraiment pas lâcher. J'ai chopé le virus de la danse. Le Covid du parquet, tout ça me met en transe. Et je me dis qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de chance. Ceux qui aiment pas l'émission, je vous jure, je rembourse la redevance. Et comme une chanteuse un peu louche le disait, pour encore quelques semaines, laissez-moi danser. Danser, danser, danser.
Merci. Bravo. Bravo.
J'ai pas vu, mais tout le monde me dit du bien de toi, en tout cas.
C'est vrai.
Ah ouais. Non, non, mais c'est vrai. Mais
je ne vois pas les mêmes personnes.
Il a la classe.
Il a la classe. Ouais. Fragment vénitien, Martine et Philippe Delerme, voyage à Venise. Pour revenir sur votre manière de travailler, Martine, ce sont des photos cumulées pendant vos 20 ans que vous avez réunies dans cet album, ou c'est une mission que vous vous êtes donnée lors du dernier voyage?
Non, non, il y avait, malheureusement, il n'y avait pas de dernier voyage parce qu'il y avait le confinement, donc.
Non, mais si, il y en a bien eu un qui a eu lieu même il y a 3 ans, peu importe. Enfin,
oui, non, non, c'est pas le dernier voyage. D'accord. C'était vraiment un choix parmi des photos prises au fil du temps.
Puis c'était sympa aussi parce que, en fait, de concevoir des choses pendant toute cette période où on était un peu confinés en Normandie, en fait.
Oui.
Et c'était assez jubilatoire, par contre, de s'échapper complètement, voilà, en se rendant compte qu'il y avait tout le poids de la vie qui restait là. Et par exemple, de faire ce projet, pour moi, pendant ce temps-là, j'ai écrit aussi un livre qui consiste à rêver sur New York alors que j'irai jamais à New York, en fait. Tout ça en étant à Beaumont-le-Roger.
Vous mettez un point d'honneur à ne jamais aller à New York?
Oui. J'ai mis un point d'honneur, bah oui. Surtout, il y a un point de, comme ça, d'intensité supplémentaire, il me semble, à pas faire les choses parfois. Voilà, c'est grand aussi, quoi. Et donc, mais c'est vrai que, du coup, quand on prépare des choses, dans une atmosphère comme ça, très, très, très retirée, très confinée, c'est chouette, quoi, aussi.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des fragments normands? Est-ce qu'il pourrait y avoir des fragments...
Ou vénitiens post-confinement.
Ouais, aussi.
Est-ce que ça peut changer?
Oui, bien sûr, il peut y avoir des fragments normands. La ville de Rouen, par exemple, est très belle à photographier. Et on est toujours un peu déçu par les photos que l'on trouve sur la ville de Rouen, qui sont des photos un peu raides, qui donnent d'elle une...
La lumière n'est pas exactement la même, si je peux me permettre, avec tout le respect que je dois...
Oui, il y a des belles lumières à Rouen aussi, oui. Non, mais le problème de la couleur, c'est l'Italie aussi, toute l'Italie. Ouais.
C'est ce couleur, que j'allais dire, jusqu'à la couleur des maisons et au choix qu'ils ont fait, qui marche aussi en Provence, quand on voit les...
Il n'y a pas d'urbanisme, en fait. Donc tu mets la couleur que tu veux, quoi. Il n'y a pas de règles contraignantes.
Fragment vénitien au seuil, Martine Delerme et Philippe Delerme. Tout de suite, voici Monsieur Tanguy Passureau.
La famille Delerme, c'est la douceur, la culture, la tendresse. À chaque fois que je croise un Delerme, j'ai envie de me rouler en boule contre son corps. Certains en profitent d'ailleurs. Une fois, j'ai fait un gros câlin à un certain Kevin Delerme. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Jamais un Delerme n'appellerait son enfant Kevin. Eh bien, c'est au moment où il a commencé à me tripoter que je lui ai demandé, es-tu sûr que tu t'appelles bien Delerme? Parce que moi, tout ce que je veux, c'est une relation poétique. Hein, ce qui exclut la sueur et l'utilisation de mots vulgaires. En fait, il s'agissait d'un imposteur. Oui, le monde des Delerme est doux. Mais la vie, elle, est dure. La vie est une rate de punk sous 8-6. Tout n'est que que haine et violence. Il y a même du R&B français. Exemple, hier, je suivais cette polémique autour d'Éric Zemmour. Il a visité le salon Millipol. C'est comme le salon de l'érotisme, sauf qu'à la place des strings en bonbons, il y a des fusils d'assaut. Alors qu'un string en bonbons, si vous savez viser, vous mettez un canard vibrant dedans, vous en servez comme d'une fronde, c'est aussi létal qu'un Uzi. Hein, on a connu des fins de journée à Mykonos, on disait Bernard-Henri Lévy va débarquer en chemise de Fursac parce que là, les combats font rage dans cette soirée mousse. Millipol, en fait, c'est le salon de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Non alambiqué pour dire salon du cassage de tête et de la tripe éclatée. Si votre invention ne fait pas au minimum 30 morts à chaque utilisation, vous n'avez pas de stand au Millipol. Donc, Éric Zemmour visite le salon, comme tous les politiques chaque année. Le Millipol, c'est un passage obligé. Il y a ça et le salon de l'agriculture. En fait, ce qui intéresse les politiques, ce sont les vaches et les guns. Au Texas, ils seraient tous élus au premier tour, mais la plupart ne parlent pas anglais, donc ils restent ici. Et à un moment, Éric Zemmour s'arrête devant un stand de fusils à lunettes. On lui enfile un énorme, et là, il veut déconner. Qui n'a pas envie de déconner quand il a une arme de guerre? Si ça se trouve, les Américains qui ont lâché la bombe sur Hiroshima, c'est juste deux types dont l'un a appuyé sur le bouton en disant on dirait le buzzer de Question pour un champion, le premier arrête Joe, t'es bête, et là, boum, catastrophe, plus de 100 000 morts, c'est la guerre. Voilà, je comprends toujours pas trop le principe, parce que pour s'occuper, sinon il y a le bowling, enfin j'arrête, hein, parce que sinon je vais encore passer pour une Miss France. Donc Zemmour veut déconner, alors il se retourne et vise les journalistes qui sont 600 autour de lui, parce que sur les chaînes info, toute la journée, on crie quoi? Zemmour est donné au second tour, ah non, j'ai mal à ma France. Donc, on continue à le filmer, 24 heures sur 24. Je pense que même quand il se réchauffe un croissant au fromage, il y a petit plat en équilibre qui le filme. C'est une sorte de délire collectif. Une espèce de Truman Show si on avait mis Truman au courant des règles de l'émission. Alors forcément, l'image est forte. Ainsi, on fait une pause vidéo à ce moment-là. Ce qu'on voit, c'est Zemmour qui met en joue la presse. On se dit, il a pété un câble. Il se prend pour Kim Jong-un si l'âme de Saddam Hussein plus le mauvais génie de Franco était venu se loger dans son corps de poupon épilé. Donc là, Marlène Schiappa, qui n'a pas l'air débordée dans son job, fait une série où elle décrit ce moment, comme je cite, horrifiant, ce à quoi Zemmour lui répond en disant qu'elle est, je cite, une imbécile. Bref, vous voyez l'ambiance qui règne à l'attraction Peter Pan à Disneyland Paris. Bon, bah, voilà, c'était l'inverse. Hein. Alors, Éric Zemmour, lui, plaide l'humour. Le problème étant que quand l'auteur de la blague tient un fusil d'assaut, on a tendance à moins se concentrer sur la blague. Hein, c'est pour ça que ici, nous n'avons pas de fusil d'assaut. Hein, que sur scène, par exemple, les Bodins ont un âne et pas une Kalachnikov. La règle, si on veut absolument un accessoire, c'est qu'il soit rigolo. Roland McDan, pendant longtemps, avait une moustache. Bref, grâce à cette polémique, je suis allé voir le site de Millipol et j'ai découvert des produits innovants pour rendre la mort de l'autre encore plus inéluctable. Je pense au fusil d'assaut CZ Bren 2. Alors c'est le top. En 7 minutes avec, vous pouvez abattre l'ensemble des sangliers de Sologne et donc bénéficier du soutien inconditionnel d'Emmanuel Macron, l'ami des chasseurs. Dans la vie, il n'aime que et Brigitte. Si en plus elle se met à tirer des cerfs, il va la demander en seconde noce. Autre produit en cas d'attaque toxique, si Gérard Depardieu lors d'une soirée explose avant le trou normand. Bon, il y a la cagoule d'évacuation. Alors vous l'enfilez et ça vous permet de respirer. Donc le temps d'évacuer la zone. Alors il y a aussi la lunette à vision nocturne, alors idéale pour localiser un ennemi, mais aussi pour aller au WC la nuit sans avoir à foutre la lumière et réveiller votre conjoint. Parce que parfois c'est ce moment-là où psychologiquement votre conjoint rejoint un ennemi. Hein. Il y a un stand de fenêtre blindée, alors si un moineau tape dedans, il meurt. Si un aigle royal tape dedans, il meurt. La fenêtre blindée arrête les Airbus jusqu'à l'A330. Autre produit, le scanner corporel. Alors, je ne le conseille pas. Si on donne des coups avec ça, ça fait très mal. Un soir, il y a un type qui disait s'appeler Jordan Delerme qui m'a fait ça. Moi, je voulais me méfier. Jamais un Delerme n'appellerait son enfant Jordan. Enfin, à Millipol, il y a des conférences, dont une intitulée « Le temps de la paix ». Voilà, alors il y a eu zéro inscription. Le Millipol, c'est pas le lieu pour faire la paix. Vous mettez deux Indiens là-dedans, ils s'enfoncent chacun leur calumet dans l'œil de l'autre. Même le Dalai Lama, un jour, y a fait un tour. Hein, il s'était trompé de hall, il cherchait le salon des massages thérapeutiques aux pierres chauffantes. Bon. Et bah, une fois dans le Millipol, il a mordu 12 personnes et saigné un chien d'attaque. Voilà. Alors, sinon, avec une arme, on peut aussi donc tenter l'humour. Mais vous voyez, je ne le conseille pas, le comique à accessoires, ça marche finalement pas tant que ça.
Merci, Tony Passio. Dans le monde de la culture, Martine Delerme et Philippe Delerme publient Fragments vénitiens au seuil, et toujours au seuil, ici sortira, on peut pas appeler ça la suite de Fragile, sortira le 25 novembre prochain.
Voilà, c'est ça. Un album d'images à l'aquarelle.
Oui, peut-être. Avec beaucoup de poésie autour des mots, autour des feuilles, autour des livres.
Voilà, et Philippe a écrit le texte.
Voilà, cette fois-ci sous le contrôle de Martine. Voilà.
Non.
Est-ce que le texte correspond au dessin?
Pas du tout, il a écrit le texte à l'aveugle. Voilà.
Waouh, et j'ai et aucune faute, j'ai vu. Hein, il a les yeux fermés.
Il a raté la feuille plusieurs fois.
C'était un exercice de style pour voir si ça fonctionnait. Voilà.
Et, non, ça
fonctionne. Et ça a fonctionné très très bien.
Clairement, je confirme.
Concernant Tanguy Pastereau, il y a une chose qui m'a amusé, c'est que vous évoquiez un Kevin Delerme, et ça m'a rappelé un souvenir très précis, puisque à l'époque où on constituait les classes de 6e, vous savez, dans les collèges, alors bien sûr, on tenait compte de la ville d'instit de la région, mais très très souvent aussi, on se fiait un petit peu au prénom, et je me souviens très très bien de l'année où on disait, ah non, pas plus de 4 Kevin par classe de 6e.
Mais que c'est une forme de racisme, ça, c'est
absolument
inacceptable.
Stigmatisation, hein.
Total. Dans la culture, Leïla Kadour vous dit, que se passe-t-il d'autre?
On va en Allemagne, à Munich. Pourquoi les rues Richard Strauss?
Dans la culture.
Ouais, mais oui, ça va, vous allez voir. Pourquoi les rues Richard Strauss et Richard Wagner risquent-elles de disparaître de la ville de Munich?
Wow. Les colons.
C'est du cancel.
C'est du cancel, absolument, puisque le conseil, bravo Morgane, le conseil municipal s'est lancé dans une réflexion sur les héros troubles dont les noms ornent voies et avenues. L'objectif, c'est d'éliminer les personnalités dont l'histoire est liée au nazisme, au colonialisme et à l'esclavagisme. Parce que finalement, il y a 372 patronymes qui sont désignés comme problématiques par la ville de Munich.
Dont Kevin.
Donc, Kevin, si tu veux, Richard Wagner a eu une influence assez importante pendant le Troisième Reich. C'était l'un des compositeurs aussi les plus appréciés par Hitler. Son fils était devenu un proche du Führer. Et Richard Strauss a été nommé par Goebbels en 1933 à la tête de la Chambre des musiciens du Reich. Il a fini par en démissionner suite à un désaccord concernant son ami Stefan Zweig. Mais en tout cas, il est question de revoir un tout petit peu l'attribution des noms de rues, des noms d'avenues. La cancel culture, est-ce que c'est un progrès nécessaire, selon vous, Martine Philippe, ou une régression?
Je ne sais pas, parfois il y a des trucs un petit peu étonnants. Il y a eu un moment où on s'est excité autour de Voltaire, par exemple. On l'a carrément fait passer pour un réactionnaire absolu. Ouais,
Mais comme il y a eu Céline aussi, la véritable...
Dans le cas de Céline, c'était un peu plus avéré.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que...
Mais quand c'est avéré
ça n'enlève pas la qualité de l'œuvre ou de son voyage ou de son écriture.
Céline, il a encore plein de magasins à son nom. Hein.
La véritable question, Céline, c'est est-ce qu'un artiste... est-ce qu'il faut distinguer l'homme de l'artiste ou l'être humain de l'artiste, homme ou femme, peu importe. Et une fois décédé, est-ce qu'on ne retient que l'œuvre ou est-ce qu'il ne faut pas oublier le comportement de ces êtres humains? C'est ça la question.
Oui, il y a bien des artistes dont on suppose qu'ils ont eu un comportement humain très très valable, et puis en fait on se rend compte quand on fouille un peu que ça n'est pas le cas. Hein. C'est très, très difficile.
Donc,
alors quand c'est avéré, en revanche, quand c'est avéré, là je donne des exemples hyper concrets. Quand c'est avéré, est-ce qu'on peut entendre que quand on a une histoire familiale qui est liée, je ne sais pas, au nazisme, au colonialisme, à l'esclavagisme, qu'on n'ait pas envie de se promener dans une rue qui porte le nom d'une personne qui a considérablement meurtri un ancêtre?
Bien sûr, ça c'est absolument normal de pouvoir réfléchir à ça. De même,
d'autant qu'il reste plein de noms de femmes qui n'ont pas de rue et d'avenue.
Voilà. Et à Paris, on pourrait aussi enlever quelques noms de rue de tous les maréchaux d'Empire,
de toutes les victoires napoléoniennes qui correspondent à des centaines de milliers de morts et
à des massacres,
massacres et qu'on emploie toujours comme ça, comme une espèce d'habitude. Si on réfléchit un petit peu à ce qu'elle représente, c'est un peu débile, quoi.
Très bien. Là, on est sur l'histoire, le colonialisme et les génocides. Mais s'il s'agit d'art, est-ce que vous vous interdisez de voir le moindre film de Roman Polanski? Est-ce que si vous entendez si vous écoutez Noir Désir à la radio, vous coupez le son?
Dans le coin de Noir Désir, c'est un peu différent, je crois. En ce qui concerne Polanski, ça m'empêche pas de voir ses films, c'est certain.
Justement, il y a une polémique autour de Bertrand Cantat en ce moment au Théâtre de la Colline, où Wajdi Mouawad a confié pour sa pièce mère la musique à Bertrand Cantat, ce qui a fait réagir la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, qui a été un petit peu tirée par les oreilles ensuite, considérant que cet homme avait purgé sa peine et qu'il n'y avait aucune raison à ce qu'il n'établisse pas de collaboration artistique par la suite.
C'est ça la question, c'est a-t-il purgé sa peine? La question est là.
Oui, mais
il a purgé.
Il est
moralement, est-ce qu'il l'a purgé?
Oui, voilà.
Alors c'est
est-ce qu'il l'a vraiment purgé moralement? Est-ce que...
Vous n'avez pas de mal à voir de films sur Polanski qui, lui,
n'a pas purgé de peine.
Oui, je suis d'accord.
On est tous paradoxaux sur ce sujet.
Chacun a un feeling qui est discutable. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a aussi des modes d'époque. Tout à l'heure, j'évoquais les années Babacou, les années 70. Mm. Il y avait presque un politiquement correct qui faisait qu'on accordait à un artiste un préjugé très favorable si ce qu'il créait était très différent de ce qu'il était dans la vie. Comme si c'était un plus évident d'avoir une rupture complète entre ce qu'on est dans la vie. Et il me semble que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, peut-être.
Il y avait même certains artistes qui poussaient le bouchon sont encore plus loin à devenir totalement décalés ou extrêmes pour être dans le rôle d'artiste. Génial, donc je me permets des choses qui seraient totalement condamnables pour un autre.
Parlons littérature, pourquoi est-il difficile de trouver en France des livres du prix Nobel de littérature Abdul Razak Gurna?
Il était ami avec les nazis.
Non, il est tanzanien, pour information.
Ça n'a pas été traduit encore.
Alors là, tu as raison en partie, puisqu'il y a trois de ses romans qui ont été traduits en français, mais certains ne sont pas édités.
Il n'est pas d'accord avec la traduction.
Non.
Les droits. Non,
c'est pas la réponse.
C'est pas ça,
faut savoir, mais tu es d'accord.
Non. Allons-y,
non,
direct.
Non. En fait, l'histoire, c'est que la maison d'édition qui l'éditait a fermé ses portes en 2017 et ils se sont retrouvés à avoir édité, sans le savoir, bien sûr, un prix Nobel de littérature. Et maintenant qu'on pourrait avoir accès à ses œuvres ou qu'on aurait envie de les lire puisqu'il est estampillé prix Nobel de littérature, eh bien, cette maison n'existe plus. Donc, il faudrait que ses œuvres aillent ailleurs ou, en tout cas, ça pourrait redonner de la vie à cette maison a fermé.
La maison n'existe plus, mais elle a été rachetée?
Non, elle a fermé ses portes, tout simplement, et son catalogue, du coup, n'a pas été encore repris par quelqu'un d'autre.
Pourrait éventuellement être racheté.
Mais à qui? Je ne sais pas comment ça peut se passer dans ces cas-là. Donc, c'est des œuvres qu'on ne peut même pas lire en France, auxquelles on n'a même pas accès. Non. C'est fou.
Ouais. Bon, ça arrive assez fréquemment, oui. Mais après,
les œuvres. Votre éditeur va vite s'en
créer. Voilà, c'est les œuvres sont libres de droit, donc n'importe qui peut rééditer.
Ensuite, il y a une proposition, mais le drame, c'est que cette maison a fermé alors qu'elle avait une pépite dans son écurie financièrement, elle n'a jamais pu en profiter.
Ça, c'est très dommage.
C'est quand même miser sur un artiste de le publier aussi.
Il n'y a pas un coup à faire en rachetant la maison d'édition? Non, je sais pas.
On se cotise?
Ouais.
Quel est votre prochain projet, Philippe Delerme? Vous avez évoqué déjà une écriture. Elle est aboutie?
En fait, j'ai vaguement évoqué ça tout à l'heure parce que j'ai fait ce constat que j'avais beaucoup d'images comme ça personnelles qui étaient liées à New York et que en fait plus le temps passe, plus on me propose d'aller à New York pour une raison ou pour une autre et je me suis rendu compte que j'avais envie de refuser parce que j'ai plus envie de mythifier New York en n'y allant pas qu'en y allant.
Et donc ça va s'appeler Je n'irai pas à New York.
Et donc ça s'appellera New York sans New York parce que donc en fait ça ira depuis des images que je voyais quand j'étais à l'école jusqu'à bien sûr des images de James Dean dans ma chambre ou de Bob Dylan en passant par Simon Garfunkel à Central Park et voilà tout ce qu'on peut imaginer.
Pour ne pas être déçu par le mythe. Des excuses à présenter, Daniel Morin?
Oui, déjà désolé pour Philippe Delerme, invité très très régulier de l'émission et de la station en général depuis 68 ans maintenant. Il avait réussi à garder un peu de son jardin secret, notamment son petit surnom. Et aujourd'hui, grâce à son épouse Martine, c'est tombé. Eh ouais, tout le filou. Monde a entendu le « Ah, filou !» Ouais, souvent c'est ça. C'est les très très proches qui trahissent.
Et encore, désolé. On a évité un titine.
Bon, désolé encore pour vous, hein, Philippe, écrivain. Oh, combien nécessaire à la culture. Oh, combien respectable. Oh, combien modèle de Vincent. Invité oh, combien important pour la bande originale qui s'est fait qualifier de décrépit par Nagui. Nagui, la délicatesse. Il ne connaît pas. Désolé. Désolé, cette fois pour Martine Delerme, qui a entendu de la bouche de son mari que ses photos avaient du génie. Non, c'est pas ça. De la grâce. Non, c'est pas ça non plus. Il a dit quoi, Philippe, déjà?
Les photos de Martine en quelque chose.
Quelque chose. Ah, ouais, ça c'est du compliment. Désolé encore pour vous, Philippe, qui a entendu de la bouche de sa femme que ses textes étaient pour le livre Fragile. Ils étaient géniaux. Ah non, c'est pas ça. De la grâce. Ah non, c'est toujours pas ça. C'était comment, Martine?
Il a dit n'importe quoi.
Wow, le compliment retour. Ça c'est du couple. Là.
Merci Martine. Merci Philippe Delerme.
Merci à
Au
vous.
Seuil, ces fragments vénitiens. Superbe ouvrage qui peut vous donner envie aussi d'aller à Venise, mais qui peut aussi vous donner envie de voir différemment les choses que vous pouvez croiser au quotidien en allant voir le détail, en s'intéressant à la lumière, à la texture, à l'évocation que cela puisse se permettre, parce que c'est vraiment ça, l'émotion qui transpire et via les photos et via les textes de photos de Martine, textes de Philippe. Demain, Alix Poisson et Thierry Godard seront avec nous. Nous évoquerons la saga Germinal sur France 2. Bonne journée à suivre les carnets de campagne. À demain.